Moi, j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu.
Les Canu Info,
Canu Info
du mercredi. Il est 19h04. Vous êtes toujours sur le 102.2 sur Radio Canu et c'est l'heure des infos.
Et ce soir, on va parler de quoi ? Ah ben, on va parler d'Amazon et de son ambition de tout faire pour entraver le futur premier syndicat.
Non mais attends, t'es en train d'annoncer les brèves. Moi, je suis pas d'accord pour qu'on annonce.
Ah, j'avais pas vu.
Je sais qu'il y a débat dans l'équipe.
Alors, bon. On n'a rien compris à ton fil que t'as fait.
Ouais.
Ça, c'est vrai.
Et toujours est-il qu'après, normalement, quatre petites brèves qui devraient être courtes cette fois. On parlera du chantier des Jeux Olympiques 2024 à Paris qui devrait pas être bien plus social que les autres.
Voilà, ensuite, on parlera des élections qui ont eu lieu au Congo-Brazzaville, puisque Sassou Nguesso, grand ami de la France, a été réélu avec 88,57% des voix.
Faire rêver Macron.
Et puis ça sera l'heure de la rubrique Il faut que ça se sache, avec des brèves, des frontières, et puis un petit dossier en quelque sorte sur Covid-19, accès aux soins et vaccination des migrants dans le monde.
Attention.
Radio Canu 102.2,
la plus rebelle des radios.
Info.
Et donc on commence par les brèves on va commencer par celle-là. Les retards de livraison d'AstraZeneca sont totalement inacceptables pour Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Eh ben tiens, quand on est aux commandes et qu'on foire complètement, c'est toujours une solution élégante de dire que c'est pas ma faute, c'est les autres qui merdent. En fait, ce qui est totalement inacceptable, Gabriel Attal, c'est d'avoir un gouvernement qui, depuis un an, est complètement incapable de gérer cette crise du Covid. Ce qui est totalement inacceptable, c'est les mensonges qui sortent de la bouche de tous les ministres dès qu'ils l'ouvrent. Ce qui est totalement inacceptable, c'est d'avoir un gouvernement avec une idéologie entrepreneuriale radicalisée qui se serait fait virer depuis tellement longtemps de n'importe quelle entreprise, tellement il est nul pour gérer les hôpitaux, les masques et maintenant les vaccins.
Canu Info du mercredi.
Aux États-Unis, les 5800 employés d'un centre de distribution Amazon à Bessemer, donc en Alabama, ont jusqu'au 29 mars pour se prononcer par référendum sur la création d'un syndicat. Sur place, l'entreprise ne recule devant rien pour tuer dans l'œuf cette initiative inédite qui pourrait peut-être faire tache d'huile sur ses 800 000 employés aux États-Unis. Alors, s'il voit le jour, ce sera donc le premier syndicat à naître au sein d'un entrepôt Amazon aux États-Unis, puisque toutes les autres tentatives ont échoué jusqu'à présent. Alors, depuis plusieurs mois, les membres du syndicat des travailleurs de la distribution qui s'appelle RWDSU se relaient au carrefour routier qui mène au parking du gigantesque centre de distribution BH1M1 d'Amazon. Mais pour éviter que ça ne prenne trop, la direction d'Amazon a demandé aux autorités locales de raccourcir la durée du feu rouge au carrefour pour éviter que ses employés ne discutent trop longtemps avec les équipes de ce syndicat qui s'appelle RWDSU. Alors Amazon, de son côté, nie et assure que le changement a été fait pour éviter les embouteillages à la sortie du parking. C'est quand même bienvenu. Pour contrer le mouvement, un consultant anti-syndical a aussi été recruté à prix d'or pour dissuader les employés de voter pour le syndicat. Une pratique assez courante aux États-Unis qui est nommée Union Busting et qui est assez répandue dans les grandes entreprises américaines. Toutes les semaines, les employés de l'entreprise doivent aussi participer à des séances d'information dans lesquelles on leur parle des risques de la négociation collective. Voilà, il faut savoir se tenir informé. Alors, des messages anti-syndicats sont aussi envoyés plusieurs fois par jour aux employés et ont même fait leur apparition donc, dans les boîtes mail, mais aussi dans les toilettes. Amazon a aussi mis en place un site internet pour rappeler au monde entier que ses employés étaient payés au moins 15 dollars de l'heure, soit le double du salaire minimum en vigueur en Alabama. Une contre-campagne donc ultra agressive qu'aucune entreprise n'avait menée aussi fort, selon des militants syndicaux sur place. Alors, l'issue du référendum est posée au 29 mars, mais quelle qu'en soit l'issue, l'un des porteurs du mouvement, Michael Foster, rappelle que sur le fond, ils ont en fait déjà gagné, puisque le mouvement syndical est bien vivant. Il reçoit des centaines de coups de fil de tout le pays de la part des travailleurs d'Amazon.
Canu Info.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté hier le pourvoi déposé par la famille de Rémi Fraisse et confirmé le non-lieu rendu en faveur du gendarme qui l'a buté. Non-lieu rendu par la Cour d'appel de Toulouse. Alors, pour les plus jeunes, Rémi Fraisse, c'était ce manifestant qui a été tué en 2014 en défendant la ZAD opposée à un projet de barrage, c'était dans le sud-ouest, à Sivens. Tué par une grenade offensive lancée donc par un gendarme. Bref, donc là c'est la Cour de cassation qui a confirmé ce non-lieu, c'est-à-dire que cette fois-ci, pour la justice française, c'est clair et net, c'est terminé, on arrête les frais, il n'y a pas d'option au-delà de la Cour de cassation, pour la justice française. Bon, et du coup, pour la justice française, on arrête les frais. Alors, pas que la justice française en a engagé beaucoup des frais. Depuis le départ de cette histoire, puisque les juges toulousaines à qui cette histoire avait été confiée en 2014 ont enquêté complètement à reculons, en faisant surtout attention à ne pas fâcher les gendarmes, à ne pas fâcher la préfecture, à ne surtout pas fâcher le ministère. Les seules personnes à avoir été un peu malmenées pendant cette enquête, ce sont les témoins qui se sont manifestés spontanément pour raconter précisément comment ça s'était passé, le lancer de grenade effectué contre toutes les réglementations par le gendarme, la force disproportionnée déployée cette nuit-là, et des tonnes et des tonnes. Enfin bon, pour le coup, il y a énormément de littérature dessus, ça se trouve sur Internet. Et entre autres dans un article de ce matin sur Mediapart qui revient un peu sur l'histoire de cette étonnante enquête où on essaye vraiment de trouver bien plus d'éléments incriminants contre la victime que contre le tueur ou la hiérarchie du tueur, bien sûr. Voilà, la famille de Rémi Fraisse a annoncé qu'elle allait quand même tenter la Cour européenne des droits de l'homme, puisque la Cour de cassation c'est le truc auquel on peut pas aller au-delà duquel on ne peut pas aller en France, mais il reste cette histoire de Cour européenne des droits de l'homme.
Canu. Canu Info. Du mercredi.
Et puis, quand même, faites gaffe dans les mois qui viennent en manif, parce que, alors, on en a parlé la semaine dernière, mais je reviens quand même un peu dessus, parce qu'il y avait un élément sur lequel j'avais peut-être pas assez insisté. Le ministère de l'Intérieur qui lance cette commande de 170 000 balles de munitions de LBD. Alors, c'est pas mal, 170 000, en sachant, par exemple, que pendant tout le mouvement des Gilets jaunes, le ministère déclare en avoir tiré un peu moins de 20 000. Donc, avec 170 000 commandés, là, ils comptent vraiment, vraiment nous défoncer la gueule.
C'est-à-dire que ça avait pas mal dégommé quand même à ce moment-là.
Ouais, c'est ça. C'est que, alors, je me rappelle plus, j'ai pas recherché le nombre de blessés de gens éborgnés par des LBD, mais ça faisait déjà un bon paquet. Alors, avec 170 000 munitions commandées... c'est ça, c'est vraiment pour défoncer la gueule. J'ai déjà dit cette phrase. Mais surtout, quand j'en ai parlé mercredi dernier, j'ai sans doute pas assez insisté sur le fait que parmi ces 170 000, le ministère a commandé 10 000 balles marquantes. C'est-à-dire qu'en plus de vous crever un œil, Elle vous recouvre surtout d'une peinture indélébile, dont vous aurez toutes les peines du monde à vous débarrasser, et qui permettront aux flics de vous reconnaître et de vous arrêter plusieurs heures après la manif, alors que ce soit au moment de la petite binouze de débriefing dehors avec des potes, ou dans le chemin, dans le métro, sur le chemin de la maison. Voilà, et ben, il faudra donc prévoir pour pendant la manif et ben, des caouets bien efficaces, quoi.
Radio Canu 102.2,
la plus rebelle des radios. Canu Info.
En 2024, les Jeux Olympiques devraient être organisés à Paris et se targuent d'une image inclusive et sociale. Mais enfin, déjà, des entailles commencent à se creuser. Puisque, par exemple, 224 personnes doivent déménager de leur logement, un foyer de travailleurs, à Saint-Ouen, pour céder la place au futur village olympique. Alors, les conditions de départ de ces travailleurs migrants sont considérées comme exemplaires. Pourtant, ils vont quand même perdre leur mode de vie collectif, déménager hein, quand même, et 46 personnes restent sur le carreau. Alors, à l'emplacement de...
Une drôle manière d'être exemplaire.
Ah oui, oui. Mais on se demande comment ça va se passer pour les autres cas, parce que si celui-là est exemplaire... Alors, à l'emplacement de leur foyer doit voir le jour, du coup, un bâtiment de services et de bureaux construit par Eiffage et Nexity pour le futur village des athlètes. Une fois les Jeux terminés, les locaux d'activité seront dédiés à la formation, à l'entrepreneuriat, dans un quartier labellisé biodiversité, avec beaucoup de végétation, des cuisines partagées, des terrains de basket, etc.
Autant ah, c'est dire... super.
Ouais, c'est quand même un beau projet, et que surtout rien de tout cela ne profitera aux actuels habitants de ce foyer. Alors, 224 personnes doivent donc quitter les lieux d'ici le 5 avril, même si certaines d'entre eux travaillent sur les chantiers des JO. Drôle de façon de les remercier. Ils doivent être temporairement relogés dans des modulaires commandés spécialement par la Solideo, donc la société qui a racheté tout ça.
Sympa.
Franchement. Voilà, modulaire.
Autrement dit, Algeco.
Oui, voilà, autrement appelé Algeco en fait. Mais là, la société s'appelle Solideo, hein, pour rappeler que c'est quand même un peu du solide. Alors, c'était des rectangles métalliques, du coup, étincelants, bicolores, pour quand même casser l'uniformité du truc. Il y a un petit effet design. Posé sur un terrain en friche près de la porte de Montmartre à Saint-Ouen. Donc, rien à voir avec le quartier actuel.
Et c'est vrai que si vous connaissez pas Paris, en général, les portes, c'est quand même en général l'endroit le plus accueillant et le plus sympathique dans la capitale, quoi.
Voilà. Alors, c'est du coup, la Solideo se vante que c'est montable, démontable, remontable. Elle les a payés 9,6 millions d'euros et espère les revendre à la fin, quand même, dans une perspective d'économie circulaire vertueuse. La direction de Solideo affirme la fierté de pouvoir les recevoir dans un logement digne. Alors que bon, bah, ce sont du coup des modules à la place des logements en dur qu'ils ont pour l'instant. Même si bon, pour l'instant, ils ont des logements en dur, certes, mais quand même vétustes et peu entretenus. Les résidents du foyer doivent donc y passer 2 ans dans ces modules avant de s'installer dans leur nouvelle résidence définitive, qui est quand même encore en projet. Autant dire qui n'est pas non plus encore construite, ils sont partis pour rester un bon moment dans ces trucs provisoires. Alors, en compensation de ce départ forcé, les loyers sont réduits, 20 euros de moins par mois pour les chambres individuelles qui vont les accueillir. Et puis surtout, 46 personnes logées sans droit ni titre, en fait, on appelle ça les surnuméraires, c'est-à-dire qu'ils dorment dans le coin d'une chambre de leurs parents sur un matelas. Eux, les surnuméraires ne sont pas comptés et ça consiste en 46 personnes qui, du coup, ne seront pas relogées parce qu'elles n'ont pas officiellement de chambre dans le foyer. Alors, c'est pas le seul problème, puisque les modulaires provisoires, tout comme les futurs logements en dur, sont conçus sur le modèle de la résidence et non plus du foyer, en fait, comme la loi le requiert depuis 2013. Les chambres sont individuelles, il n'y a plus de cuisine collective, plus de salle commune pour les repas, alors que les résidents, justement, insistaient sur ce point pendant les concertations.
Canu Info. Du mercredi.
Et Denis Sassou Nguesso, le président du Congo, Brazzaville, a donc été réélu avec 88,57% des voix. Le journal L'Observateur Palga de Ouagadougou nous avait prévenu quelques jours avant le scrutin. Le scrutin. À quoi ça sert, demandait un article signé la rédaction, d'organiser des élections démocratiques, entre guillemets, dans un pays comme le Congo. Et de nous expliquer que le président sortant, qui a 70 balais, totalise 36 ans à la tête du pays, ce qui fait de lui l'un des chefs d'État africains à avoir poussé des racines sous le fauteuil présidentiel. Alors, pas trop d'observateurs internationaux pour les élections à cause du Covid. Et puis, c'est vrai qu'il y a une ONG congolaise qui s'occupe, enfin, qui rassemblait plusieurs organisations d'opposition et qui s'occupait de plusieurs choses, mais entre autres de former des observateurs électoraux et aussi de sensibiliser la population aux enjeux du vote. Mais son coordonnateur à cette ONG a été arrêté chez lui une dizaine de jours avant les élections. Qui étaient les six candidats opposés à Denis Sassou Nguesso? Parce que quand même, il n'était pas le seul candidat. Six adversaires, nous dit l'Observateur Palga, qui tiennent pour la plupart lieu de comparse plus que d'autres choses. Sauf un, qui apparemment, lui, avait l'air un petit peu plus sérieux, mais bon, pas de bol, il est mort du Covid le jour de l'élection.
Donc ça, c'est peut-être pas un complot, alors.
Pour le coup, c'est peut-être pas un complot. Et du coup, il a même pas su qu'il a fait le score éblouissant de 7,84%. C'est quand même lui qui a fait le plus gros score en dehors du président. Alors, dans un autre article, après les résultats, l'Observateur Palga enfonce le clou. Mais à quoi les opposants s'attendaient-ils vraiment? Pensaient-ils que Sassou Nguesso allait lâcher son affaire après 37 ans? Alors, tiens, une fois ils disent 36, une fois ils disent 37. Oh, peu rigoureux. Après 37 ans cumulés à la tête de son pays, et surtout après la leçon apprise en 1992 à l'issue de la première élection véritablement ouverte. Puis le journal nous raconte l'histoire de cette élection de 1992. Cette année-là, en effet, celui qui était au pouvoir depuis 1979 avait été battu par Pascal Lissouba. Et il était arrivé troisième avec 16,87% des votes. Sans doute s'était-il piqué à jouer le parfait démocrate. Donc, il a joué, il a perdu. Ouh, il n'a pas été content. Et du coup, cinq ans plus tard, c'est par les armes, au terme de ce que le journal appelle une effroyable guerre civile, qu'il revient au pouvoir, en 97. Je reprends la lecture du journal. Plus donc question pour lui de se prendre pour le parangon de démocratie qu'il n'a jamais été. Il se fera désormais réélire et réélire avec des scores à la Sassou. 89,41% en 2002, 78% en 2009 et maintenant 88,57%. Des taux qu'il devrait faire breveter, Denis Sassou Nguesso. Tant pareils scores ridicules sont devenus rares a priori sur le continent africain. Cette appétence des chiffres stratosphériques est peut-être une manière pour lui de montrer que, malgré sa longévité, le peuple congolais est toujours transi d'amour pour son chef, qui vient de frôler la perfection électorale. Mais si on est enclin à penser que ce sont là des scores... même si on est enclin à penser que ce sont là des scores sortis in vitro d'un laboratoire plutôt que des urnes. En bref, l'Observateur, comme d'ailleurs globalement les commentateurs internationaux, ne croit pas tellement que le score électoral ait beaucoup de rapport avec ce que les gens ont mis comme petit papier dans les boîtes. L'ONG Survie, qui est une ONG qui lutte en France contre les pratiques mafieuses qui lient la classe politique et le milieu des affaires français au gouvernement africain, n'a pas l'air de beaucoup croire non plus que les scores soient en rapport avec ce que les gens ont voté. C'est Survie qui nous dit que la campagne électorale a été une nouvelle fois rythmée par les arrestations d'opposants et de défenseurs des droits de l'homme, mais surtout c'est Survie qui nous dévoile un autre côté de l'affaire. Et là, je cite leur communiqué. Denis Sassou Nguesso peut compter sur le soutien sans faille de Paris. Celui-ci se matérialise notamment par une étroite coopération militaire, maintenue malgré la grossière modification de la Constitution qui a permis depuis 2015 à Sassou Nguesso de rester au pouvoir sans limitation de mandat. Bon, vous savez, ça c'est toujours l'histoire dans les pays africains. Pour la plupart, ils ont eu des constitutions où les présidents pouvaient faire au plus deux mandats, éventuellement au plus trois. Mais un certain nombre de ces présidents, pas tous, mais un certain nombre, ont modifié les constitutions au milieu du dernier mandat qu'ils étaient censés faire pour pouvoir continuer. Et généralement, c'est quand même beaucoup les présidents amis de la France qui font ça. Énormément. Un des derniers ayant été Alassane Ouattara, par exemple, qui, pour le coup, qui était vraiment le candidat de la France. Blabla, rester au pouvoir sans limitation de mandat. Et ah ouais, c'est ça. C'est que la France a maintenu sa coopération militaire, une grosse coopération militaire, malgré cette manipulation en 2015 et la répression sanglante des manifestations populaires à ce moment-là. En 2017, la France se targuait par exemple de disposer d'un conseiller spécial auprès du ministre congolais de la Défense. Pas plus tard que le mois dernier, les autorités françaises indiquaient fournir un appui au commandement et à l'organisation interarmée en fournissant conseil et ingénierie de formation au plus haut niveau de l'état-major général congolais. Et elle se targuait aussi de former plusieurs dizaines d'hommes et de femmes de la force publique congolaise. Bref, l'armée congolaise, c'est la France qui l'entraîne, qui l'arme et qui l'organise. Par ailleurs, dans un pays quasiment en cessation de paiement, nous dit toujours Survie, le soutien économique de la France reste déterminant pour le maintien au pouvoir de Sassou Nguesso. La France est ainsi un des principaux investisseurs au Congo et se targue d'être le premier donateur d'aide publique au développement bilatéral. Dans le même temps, l'exploitation pétrolière bat son plein. Il y a 18 mois, le pays a annoncé la découverte d'un gisement onshore qui pourrait faire quadrupler la production nationale et assurer de juteux bénéfices à Total, entreprise française donc, déjà à la fête dans le pays et fournir de nouvelles ressources à la présidence à vie de Sassou Nguesso. Cette histoire de pétrole est sans doute, n'est sans doute pas pour rien dans le fait que ce président soit tellement soutenu par la France. Alors le Congo-Brazzaville est pauvre. Et il fait partie des pays. Alors moi, je n'ai pas cherché, mais il est je ne sais combien sur la liste des je ne sais. Bon, bref, il fait partie des pays vraiment pauvres. Mais par contre, son président, lui, n'est pas trop pauvre. Et pas non plus la France, qui siphonne les ressources, et en particulier donc le pétrole. Et donc, je laisse la conclusion à nouveau à l'observateur, pas à Alga. Mais jusqu'à quand ces farces électorales qui ne font plus rire personne, peut-être même pas leur principal acteur, vont continuer? Les Congolais vont-ils continuer de subir sans broncher les faits et méfaits du presque octogénaire, englué dans pas mal d'affaires de biens mal acquis, régulièrement citées par certaines ONG comme Transparency International, Sherpa, Global Witness? Et puis, malgré ses énormes richesses naturelles, le Congo de Sassou reste désespérément un pays pauvre. C'est donc plus une question d'hommes que de pauvreté intrinsèque, c'est-à-dire de pauvreté du pays. Qu'est-ce que le président sortant peut donc bien faire durant ce énième mandat qu'il n'a pas pu faire en 36 ans de règne? Question à 1000 barils de pétrole.
Et on va se faire une petite pause musicale.
Vilain con les hommes!
Oh,
qu'est-ce
que tu fais? Je vais pas. Oui, je vais pas.
Là où le sang, les larmes, tous les vidés. Gardez vos mythos, on veut la vérité. Oh vie, comme un de temps débridé. Wow, 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 y'a jamais eu d'équité. Alors la haine du cultif et des héritiers. Tout comme les aveux, ils vivent de leur défié. La violence est du monde, sinon rue étriquée. Dis-leur qu'on les emmerde.
Le sang chaud comme la ville, sous un soleil de plomb. Si rester vrai, c'est fragile. Dis-leur qu'on les emmerde. Les connards, les commères, les cynies. Dis-leur qu'on les emmerde. Ceux qui abusent du pouvoir comme les flics, les minis. Dis-leur qu'on les emmerde. Marseille c'est Vézou, la peau est éruptive, frappe au grand cœur. Bonheur d'alerte à la plume et fait zoom. Ici les foules suivent les foules. La fille de la fouche fait swing et les sous-sols. Plus rien à foutre, fais des prouesses. Pou, pouf et fou, wesh, plus rien à prouver. Dis-leur qu'on les emmerde.
Cris silencieux comme la nuit, sous une lune d'argent. Si rester pur c'est fragile.
Dis-leur qu'on les emmerde. Les connards, les commères, les cynies. Dis-leur qu'on les emmerde. Ceux qui abusent du pouvoir comme les flics féminines. Dis-leur qu'on les emmerde.
Défendre l'artificielle matrice, corps et âme jusqu'à la mort.
Et on passe à la rubrique Il faut que ça se sache. Et alors on va commencer par quelques brèves des frontières. Et on va faire un tour du côté du Mont Genèvre qui est à la frontière franco-italienne. Et dans la nuit de samedi à dimanche, deux maraudeurs portent secours à quatre migrants en difficulté dans le col alors qu'ils tentaient de rejoindre la France par le col du Mont Genèvre. Sauf qu'une opération de police déboule à ce moment-là. Opération de police qui n'est pas surprenante à ce moment-là parce que la police aux frontières, je pense, campe à la frontière. Du coup, ils expulsent en Italie les quatre migrants et embarquent et placent en garde à vue pour 34 heures les deux maraudeurs. Une fois au commissariat, les flics affirment aux gardés à vue qu'ils ont des infos et qu'ils peuvent prouver qu'ils sont allés chercher les quatre personnes en Italie et qu'ils les ont convaincus de passer la frontière.
Ah ouais.
Ouais, ils avaient un gros dossier hein, qui prenait à peu près toute la hauteur du plafond. En gros, ils les accusaient d'être tout simplement des passeurs. Bon, sauf que tout ça n'a qu'un seul but, les intimider, puisque les flics n'ont en réalité que dalle, ils ont que dalle, et bien sûr, les gens ne sont pas allés en Italie chercher les gens pour les convaincre de passer. En tout cas, ils sont ressortis sans aucune poursuite. L'affaire a fait un peu de bruit, mais un tout petit peu, hein, mais c'est pas mal dans ce genre d'histoire, puisque les deux maraudeurs faisaient partie d'une de l'association Tous Migrants, et de deux, l'un d'eux était également à la Confédération Paysanne, et du coup, les Tous Migrants et la Conf ont bien sûr balancé tout un tas de communiqués pour dire comme quoi c'était scandaleux et qu'il l'est, bien évidemment, qu'il les soutenait. Alors, c'est pas la première fois que les associations qui sont présentes dans les Alpes dénoncent les pratiques policières et le harcèlement qu'elles subissent pour tenter de les dissuader d'agir. Alors, bien sûr, elles dénoncent aussi quotidiennement le harcèlement policier des migrants, mais là, on regarde plutôt ça sur le prisme des gens qui tentent de leur venir en aide. Et au début de cette année, l'association Tous Migrants rappelait que l'État avait plus souci d'entraver l'aide aux migrants qui passaient le col par moins 15 degrés que de leur porter secours. Ils ont par exemple reçu 30 amendes pour non-respect du couvre-feu en janvier, alors qu'ils disposaient d'attestations en bonne et due forme. Ouais, c'est-à-dire que je connais personne hein, qui a reçu, ou groupe de personnes qui a reçu 30 amendes pour non-respect du couvre-feu.
En fait, personne qui a reçu une amende.
C'est ça.
Beaucoup de gens qui ont traîné dehors après 20h ou 18h.
Ainsi, le quotidien des maraudeurs et maraudeuses peut se résumer ainsi. Contrôle d'identité, notification d'amende, audition libre, etc., etc. Un maraudeur témoigne, je cite, la nuit du 8 janvier 2021, j'ai été contrôlé 4 fois par 2 équipes de gendarmes alors que je maraudais au Mont Genèvre. Cette même soirée, j'ai été notifié de 3 amendes alors que j'étais en position de mon ordre de mission et de mon attestation dérogatoire de déplacement délivrée par l'association Tous Migrants. C'est-à-dire que les personnes qui font ça sont au courant qu'elles reçoivent de grosses pressions. Donc c'est-à-dire qu'elles n'oublient pas leurs attestations au moment de sortir. C'est-à-dire que les flics ne peuvent même pas dire ah bah oui, mais ils n'avaient même pas son attestation. Bien évidemment, du côté de la préfecture, on assure, je cite, les services chargés du contrôle aux frontières agissent dans le respect des règles de droit et des personnes qu'elles contrôlent. Alors, si le droit le permet, il est peut-être là le problème. Et on continue dans les pratiques dégueulasses. Et là, cette fois-ci, c'est le Conseil d'État. Donc, c'est à peu près la plus haute juridiction administrative de France qui estime que les autorités françaises ont porté, je cite, atteinte grave et manifestement illicite au droit d'asile dans les départements de Mayotte à une personne burundaise et son fils de 10 ans vivant sans ressources et sans abri alors qu'ils sont demandeurs d'asile. Et en gros, leur situation, c'est de vivre dans une pièce unique avec 12 autres personnes. D'après la directive européenne du 26 juin 2016, les États européens ont obligation de faire bénéficier aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil adaptées. Donc là, on imagine que c'était loin d'être le cas. Les magistrats ont donc contraint les autorités à accorder sans délai des aides matérielles à cette personne et à son fils. Pour la CIMAD, il s'agit d'une première sur un département qui compte 105 places d'hébergement pour plus de 3000 demandeurs d'asile en instance. Donc on imagine et on espère que cette décision va faire tache d'huile et que d'autres personnes se sentiront le courage de porter l'affaire devant les tribunaux. Alors s'il s'agit d'une première, les entorses et les pratiques illégales sont légion à Mayotte, qui bénéficie par ailleurs déjà de graves largesses légales exceptionnelles en matière de répression à l'encontre des migrants.
Et on conclut comme ça ces infos.
Non, j'ai encore une petite actu.
Ah, c'est vrai. Eh ben, vas-y.
Et du coup, là, on va parler vaccins et accès aux soins des migrants. Alors, la Croix-Rouge alerte sur l'accès à la vaccination à travers le monde. Alors, si l'accès aux vaccins est, on le sait, très largement une affaire de pays riches, au sein même de ces pays, il semblerait que, suivant son statut juridique, des inégalités soient criantes. Alors, petit tour d'horizon, en Grèce par exemple, ce sont tout bonnement 50 000 personnes qui n'ont pas de numéro de sécurité sociale et qui se retrouvent tout simplement privées de vaccins. C'est également le cas, en Pologne et en République dominicaine. Une étude menée par la Croix-Rouge montre qu'en Grande-Bretagne et aux États-Unis, si théoriquement les personnes migrantes ont un accès à la vaccination, très peu vont se faire vacciner par peur d'être enregistrées par les autorités et d'être expulsées par la suite. En France, dans les faits, toute personne peut se faire vacciner et depuis le 28 janvier 2021, il n'est plus nécessaire de présenter une carte vitale ou une pièce d'identité pour aller se faire vacciner dans un centre de vaccination si on remplit les critères, vous voyez, personnes vulnérables, de plus de machin, tout ça. Reste à savoir s'il y a des efforts de fait pour informer suffisamment les personnes concernées, sachant que ces personnes vivent souvent dans des conditions précaires et dans des endroits précaires. Du côté du Maroc, il s'agit d'un pays à la pointe de la vaccination en Afrique avec plus de 4 millions de personnes vaccinées, les personnes sans papiers sont, elles, tout simplement exclues et cela ne concerne pas moins de 20 000 personnes. Alors du côté des associations de défense des migrants, on craint un effet dévastateur. Les sans-papiers seront d'autant plus marginalisés par le reste de la population, sachant qu'eux, ils n'ont pas pu avoir accès au vaccin. Et les efforts de la vaccination risquent d'être anéantis. C'est l'avis de Franck Iyanka, un Congolais membre de l'Organisation démocratique du travail, un syndicat très actif au Maroc, qui dit que les Marocains résidents ou sans papier prennent tous le bus et les mêmes taxis et vont dans les mêmes endroits en même temps. Donc le gouvernement a tout intérêt à vacciner tout le monde sans distinction. Et l'organisation ainsi que d'autres associations appellent dans le même temps à les autorités marocaines à régulariser les personnes sans papier afin que toute cette précarité cesse.
Alors non, avant de terminer aussi, bien sûr, le truc qu'on a oublié, et vous qui avez des ordinateurs, vous allez peut-être pouvoir aller regarder la date de la manifestation Antifa.
Le 3 avril.
Le 3 avril, c'est donc ça, puisque si jamais certaines de vous sont passés à côté de l'info, les FAF ont attaqué ce week-end la librairie La Plume Noire à la Croix-Rousse. Ont défoncé, bon, visiblement surtout la vitrine, mais enfin ils étaient quand même 40-50 en plein après-midi. Ils ont traversé toute la ville en cortège comme ça, sans que les flics y fassent grand chose. Alors visiblement les flics disaient qu'ils étaient pas assez nombreux, ils savaient pas quoi en faire, si ça se trouve c'est même vrai. Mais voilà, ils sont arrivés jusqu'à la Croix-Rouge, ils ont défoncé la librairie. Il faut quand même vraiment pas laisser faire ça, c'est quand même vraiment craignos. Donc, manif le 3 avril.
Et on peut terminer par un petit conseil de lecture. Sur le site bastamag.net, vous pouvez trouver un article dans la rubrique droit humain qui s'intitule « Comment les pays européens et l'agence Frontex persécutent les exilés qui se présentent à leurs frontières ». Et c'est un petit résumé de toutes les méthodes dégueulasses qu'on peut retrouver, que ce soit aux frontières grecques, tout autour de l'Europe, que vous verrez. On vous parlera de Frontex et tout ça, quoi.
Et puisqu'on en est à un petit agenda sauvage, ce week-end, il y a aussi un week-end de lutte pour un logement digne pour toutes et tous. Donc ça commence vendredi, alors à Lyon, mais je crois que c'est un peu partout en France. Voilà, il y a un peu plein de choses. Vous regarderez, il y a des projections, manifs samedi, et puis des crêpes et une formation de droit au logement. Voilà. C'est ce week-end.
Et bien en attendant, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine, sûrement confiné d'après les dernières informations. Mais à la semaine prochaine quand même.
C'était le Canu Info. c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.